Le hussard mélancolique de la Légion germanique. Thomas Hardy. Partie 1/2. Chapitre 1. Ici s'étendent les collines, vertes, élevées, ventées, absolument inchangées depuis ces jours mémorables. Jamais charrue n'est venue remuer la tourbe, et la motte qu'à l'époque on voyait en surface est toujours en surface aujourd'hui. Ici se dressait le camp. Voici, bien distinct, des vestiges des levées de terre pratiquées à la hâte pour les chevaux de la cavalerie. Voici, encore bien reconnaissables, les emplacements des anciens tas de fumier. La nuit, lorsque je parcours cette solitude, je ne puis faire autrement que d'entendre, parmi les balayages du vent sur les joncs et les chardons, les sonneries d'autrefois. Trompette, clairon, le cliquetis des licoles. Je ne puis m'empêcher de voir des alignements de tentes spectrales et les impedimenta de la troupe. De l'intérieur des tentes s'élèvent des syllabes gutturales de langues étrangères, entrecoupées de bribes de chants de la terre ancestrale. C'était, en effet, surtout les régiments de la Légion germanique du roi qui, en cette époque lointaine, hantaient ces parages, dormant autour des mâts, des tentes. C'était il y a presque 90 ans. L'uniforme britannique de l'époque, large épaulette, curieux chapeau à cordes, culotte, guêtre, pesante cartouchière, souliers à boucles, et que sais-je encore, paraîtrait aujourd'hui bien étrange et barbare. Les idées ont évolué, les inventions se sont multipliées. En ce temps-là, les soldats étaient des objets monumentaux. Ça et là, une divinité protégeait encore les rois, et la guerre était tenue pour chose glorieuse. De vieux manoirs et hameaux se nichent, solitaires dans les ravins et les vallées au creux de ces collines où l'on n'avait pour ainsi dire jamais vu d'étrangers jusqu'au jour où le roi, élu, pour prendre les eaux une fois par an, la station thermale balnéaire à quelques milles plus au sud. On vit alors des bataillons s'abattre en tourbillon sur la campagne alentour. Est-il utile d'ajouter qu'une multitude de récits, remontant à cette époque pittoresque, s'attarde encore sur cette terre, en écho plus ou moins fragmentaire, que peut capter une oreille attentive? Certains, je les ai rapportés. La plupart, je les ai oubliés. Il en est un que je n'ai jamais relaté et ne puis assurément oublier. L'histoire, je l'ai cueillie des lèvres mêmes de Phyllis. C'était alors une vieille dame de 75 ans et son auditeur un gamin de 15 ans. Elle imposa le silence sur son rôle dans le déroulement de cet incident jusqu'à ce qu'elle soit morte, enterrée, oubliée. Elle vécut encore 12 ans après le jour de son récit, et cela fera bientôt 20 ans qu'elle est morte. L'oubli, que dans sa pudeur et son humilité elle avait sollicité, ne s'est que partiellement étendu sur elle, ce qui a fait subir une regrettable injustice à sa mémoire. Les bribes de son histoire, qui avaient transpiré à l'époque, constamment préservées de l'oubli depuis lors, se trouve précisément être celle qui malmène le plus durement sa réputation. Tout commença avec l'arrivée des Hussards d'York, l'un de ces régiments étrangers évoqués plus haut. Avant ce jour-là, on n'avait pour ainsi dire vu personne autour de la maison de son père depuis des semaines. Entendait-on sur le seuil le frôlement de la jupe d'une visiteuse? C'était la course folle d'une feuille. Une voiture qui s'approchait de la porte, c'était son père, aiguisant sa faucille sur la meule dans le jardin pour tailler les buis qui en soulignaient les bordures, son délassement favori. Un bagage jeté du haut d'un coche, c'était un canon, au large, dans le lointain. Et cette haute silhouette d'homme, près de la grille au crépuscule, c'était un if, étrangement effilé. Dans les campagnes aujourd'hui, il n'est plus de solitude semblable à celle des jours d'antan. Et pourtant, pendant tout ce temps, le roi Georges et sa cour séjournaient dans sa station balnéaire d'élection, distante seulement de 5 000 environ. L'isolement de la fille était grand, mais plus grand encore était l'isolement du père. Elle vivait dans une sorte de crépuscule social, lui, de ténèbres. Mais si lui appréciait ces ténèbres, elle, ce crépuscule l'accablait. Ancien médecin libéral, le docteur Grove avait vu, en raison de son penchant à la méditation solitaire sur des questions métaphysiques, s'amoindrir sa clientèle, au point de ne plus avoir intérêt à continuer d'exercer. Il y avait donc renoncé, louant, pour un prix insignifiant, la petite maison décrépite, mi-ferme, mi-manoir, de ce coin perdu de l'intérieur du pays afin d'avoir de quoi vivre avec un revenu qui, en ville, n'eût pas suffi à leur entretien. Il restait presque toute la journée dans son jardin. Plus le temps passait, plus s'aiguisait la conscience d'avoir gâché sa vie à la poursuite d'illusions, plus il devenait irascible. Il voyait ses amis de moins en moins souvent. Phyllis devint si farouche que, lorsqu'elle faisait une rencontre au cours de ses brèves promenades, elle se couvrait de confusion sous le regard de l'inconnu. Sa démarche s'embarrassait. Elle rougissait jusqu'aux oreilles. Pourtant, un soupirant dénicha Phyllis jusqu'en sa retraite et contre toute attente demanda sa main. Le roi, on l'a dit plus tôt, avait pris ses quartiers dans la ville voisine et s'était installé à Gloucester Lodge. Sa présence attirait les gens du comté en grand nombre. Parmi ces flâneurs, dont beaucoup faisaient profession d'avoir lien et crédit auprès de la cour, se trouvait un certain Humphrey Gould, célibataire, ni vieux, ni jeune, ni beau, ni véritablement ordinaire, trop calme pour être un « dandy », comme on appelait alors les jeunes viveurs célibataires, il était élégant, sans excès. Ce jeune homme de 30 ans s'en vint au village sur la colline, aperçut Phyllis, fit la connaissance de son père dans le but de faire la sienne, et d'une manière ou d'une autre, elle enflamma son cœur au point de l'amener à prendre presque quotidiennement le chemin de la maison jusqu'à ce qu'il se fiance et promette de l'épouser. Comme il appartenait à une vieille famille de la région, dont certains membres jouissaient de la considération du comté, il apparut que Phyllis, en l'amenant à ses pieds, avait réalisé un coup brillant pour quelqu'un dans la gêne, comme elle l'était. Comment elle s'y était prise, Phyllis elle-même n'en savait trop rien. En ce temps-là, les mariages qui transgressaient les barrières sociales étaient davantage ressentis comme une violation des lois naturelles que comme une simple atteinte aux convenances, ainsi qu'on le pense aujourd'hui. Ce choix de Phyllis, issu de la bourgeoisie, de cette station thermale, par un garçon si bien né, était comme une ascension vers les cieux, encore qu'aux yeux d'une personne extérieure, l'écart entre les situations respectives du couple aurait probablement paru négligeable, le dit Gould étant pauvre comme Job. Cet embarras financier était son excuse, vraisemblablement sincère, pour remettre à plus tard leur union et, à l'approche de l'hiver, au départ du roi pour la saison, M. Humphrey Gould prit le chemin de Bath, promenant d'être de retour auprès de Phyllis d'ici quelques semaines. Arriva l'hiver, expira la date de sa promesse, Gould reculait toujours sa venue sous le prétexte qu'il lui était assez difficile d'abandonner son père dans la cité où il séjournait, le vieil homme n'ayant pas d'autres parents près de lui. Au comble de la solitude, Phyllis restait pourtant sereine. L'homme qui avait demandé sa main était à plus d'un titre un parti avantageux pour elle. Son père voyait sa demande en mariage du meilleur œil. Malgré tout, Phyllis trouvait à cet abandon quelque chose de fâcheux, sinon de douloureux. Jamais elle ne l'aima à franchement parler, m'assura-t-elle. Mais elle nourrissait pour lui une véritable estime. Elle admirait le soin, pour ainsi dire méthodique et obstiné, qu'il prenait parfois à se divertir. Elle appréciait sa connaissance des faits et gestes, présents, passés et à venir, de la cour. Et elle n'était pas sans éprouver un sentiment de fierté d'avoir été choisie, alors qu'il aurait pu exercer un choix plus ambitieux. Mais il ne vint pas, et survint le printemps. Ses lettres étaient régulières, quoique conventionnelles, et il ne faut pas s'étonner que l'incertitude de sa situation, liée au fait que les pensées qu'elle vouait à Humphrey étaient relativement dénuées de passion, ait fait naître une indicible tristesse dans le cœur de Phyllis Grove. Le printemps fit bientôt place à l'été. L'été ramena le roi, mais toujours pas de Humphrey Gould, qui cependant maintenait sans faille ses fiançailles par lettre. À ce moment précis, un flamboiement doré vint illuminer la vie des gens des alentours et gonfler d'un émoi passionné toutes les pensées juvéniles. Ce flamboiement n'était autre que les hussards d'York, déjà mentionné. Chapitre 2. Les célèbres hussards d'York d'il y a 90 ans. La présente génération n'en a sans doute qu'une vague notion. C'était un des régiments de la Légion germanique du roi, mais ils ont un peu perdu de leur superbe par la suite. Mais à l'époque, leur uniforme éclatant, leurs chevaux magnifiques et par-dessus tout, leur allure et leur moustache exotique, une rareté en ce temps-là, attiraient partout où ils allaient des foules d'admirateurs des deux sexes. Ils étaient venus, ainsi que d'autres régiments, camper sur les collines et les herbages en raison de la présence du roi dans la ville voisine. Cet endroit dominait une vaste vue sur Portland, l'île des Frondeurs, qui s'étendait jusqu'à Saint-Adelmshead à l'est et presque jusqu'au Start à l'ouest. Même si elle ne faisait pas précisément partie des filles du village, Phyllis n'était pas la dernière à porter un intérêt à cet investissement militaire. Située un peu à l'écart, la maison de son père occupait le dernier terrain tout en haut du chemin, de sorte qu'elle se trouvait pratiquement au niveau du sommet du clocher par rapport à la partie basse de la paroisse. Sitôt passé le muret du jardin, l'herbe s'étalait à perte de vue, coupée par un sentier qui s'arrêtait au ras du mur. Depuis son enfance, Phyllis s'était toujours plu à escalader ce mur de clôture pour aller s'asseoir tout en haut. Prouesse, somme toute relative, les murs de cette région, bâtis en pierre sèche, offrant par conséquent une multitude de prises aux petits orteils. Un jour qu'elle y était installée, promenant un regard indolent sur l'herbage, son attention fut soudain retenue par une silhouette solitaire marchant sur le sentier. C'était l'un des hussards allemands qui avançait, les yeux fichés à terre, soucieux, selon toute apparence, d'éviter la compagnie. Sans le harnais de son col officier, il est probable qu'il aurait eu également la tête penchée. À le regarder de plus près, elle discerna sur son visage les marques d'une profonde tristesse. Sans l'avoir remarqué, il finit par arriver pratiquement au-dessous du mur. Phyllis était vraiment surprise de voir un beau et grand soldat dans une humeur pareille. Dans son esprit, les militaires et tout particulièrement les hussards d'York devaient avoir le cœur aussi gai que leur fourniment, théorie entièrement fondée sur des oui dire car de sa vie elle n'avait jamais adressé la parole à un soldat. À cet instant, le hussard leva les yeux et l'aperçut sur son perchoir. Le foulard de mousseline blanche qui couvrait ses épaules et sa nuque décolletée et sa tenue claire attirait les regards dans l'éclatante clarté de ce jour d'été. La soudaineté de la rencontre lui fit venir le rouge aux joues et, sans briser le moins du monde son allure, il passa son chemin. Toute la journée, le visage de l'étranger hanta Phyllis. Il était si saisissant, si beau, ses yeux étaient si bleus, si tristes, si rêveurs. Que pouvait-il y avoir d'étrange à la trouver quelques jours plus tard, à la même heure, juché sur le mur à guetter son deuxième passage? Cette fois-ci, il lisait une lettre, et dès qu'il la vit, son attitude laissa deviner qu'il avait nourri quelque espoir de la trouver là. Il marqua un temps d'arrêt, sourit, et fit un salut plein de courtoisie. Ils finirent par échanger quelques mots. Elle lui demanda ce qu'il était en train de lire. Il s'empressa de lui faire savoir qu'il parcourait de nouveau des lettres de sa mère, d'Allemagne. Comme il n'en recevait pas souvent, ajouta-t-il, il ne lui restait qu'à relire maintes et maintes fois les anciennes. L'entrevue se borna là pour l'heure, mais d'autres suivirent, de la même teneur. Phyllis disait souvent qu'elle comprenait parfaitement ce qu'il disait, malgré les faiblesses de son anglais, si bien que le progrès de leur relation ne se trouva jamais entravé par des difficultés de langage. Le sujet prenait-il un tour trop délicat, trop subtil ou trop tendre pour le vocabulaire dont il disposait? Les yeux, sans aucun doute, venaient au secours de la langue. Avec le temps, bien sûr, les lèvres venaient au secours des yeux. Bref, cette relation nouée à l'étourdi et non sans quelque témérité de la part de Phyllis prit du corps et mûrit. Telle Desdémone, émue de pitié pour lui, elle prit connaissance de son histoire. Il se nommait Matthäus Tina et était natif de Sarrebruck, où sa mère vivait toujours. Il avait 22 ans et s'était déjà, malgré la date relativement récente de son incorporation, élevé au grade de caporal. Phyllis affirmait souvent qu'on aurait su trouver un jeune homme aussi raffiné ou cultivé dans les rangs des régiments anglais, certains de ces soldats étrangers s'apparentant davantage, par la grâce de leur allure et de leur maintien, à nos officiers à nos troupes. Au fil des jours, au contact de son ami étranger, Phyllis apprit à voir les hussards d'York sous un éclairage tout à fait inattendu. Bien loin d'être aussi gai que son uniforme, le régiment était envahi d'une pernicieuse mélancolie, d'une affreuse nostalgie, source de dépression profonde chez les hommes, à tel point qu'il n'avait, pour ainsi dire, plus la tête à l'exercice. Les plus atteints étaient les jeunes recrues arrivés de fraîche date. Ils avaient l'Angleterre et la vie anglaise en horreur. il se moquait éperdument du roi Georges et de son royaume insulaire. Il ne pensait qu'à quitter cette terre pour ne plus jamais la revoir. Ils étaient là de corps, mais de cœur et d'esprit ne quittaient pas leur chère et lointaine patrie, dont ils parlaient toujours avec des larmes plein les yeux, pour stoïques et valeureux qu'ils fussent à bien des égards. Parmi les plus atteints de ce mal du pays, comme il disait dans sa langue, on comptait Mataos Tina, dont la nature rêveuse et contemplative avait de la noirceur de l'exil une perception encore avivée du fait qu'il avait laissé à la maison une mère esselée, sans personne pour l'égayer. Ému et intéressé par l'histoire de son soldat, Phyllis ne dédaignait certes pas sa relation avec lui, sans aller toutefois et de longtemps jusqu'à autoriser le jeune homme à outrepasser les bornes de la simple amitié, à l'en croire tout au moins. Aussi longtemps, à vrai dire, qu'elle s'estima vouée à devenir la possession d'un autre. Mais elle était probablement tombée amoureuse de Mataos avant d'en avoir pris conscience. Le mur de pierre était l'obstacle auquel se heurtait toute tentative d'intimité, et Mataos n'avait jamais osé pénétrer dans le jardin ou même demander à y pénétrer, si bien que leur conversation s'était toujours tenue au grand jour de part et d'autre de cette frontière. Chapitre 3. Mais, par un ami du père de Phyllis, parvinrent au village des nouvelles de M. Humphrey Gould, le promis remarquablement peu empressé. On avait entendu à Bath ce beau monsieur déclarer n'avoir, à son avis, pas dépassé le stade d'une demi-entente dans ses tractations avec Miss Phyllis Grove, et qu'en raison de l'absence à laquelle le contraignait son père, trop malade désormais pour s'occuper de ses affaires, le mieux était, à son idée, d'éviter de part et d'autre toute promesse précise pour le moment. Était-il certain, en outre, de ne jamais poser ses regards ailleurs? Ce récit, simple lui dire, pourtant, et par là même très relativement digne de foi, cadrait si bien avec la rareté de ses lettres et leur manque de chaleur que Phyllis ne le mit pas en doute une seconde. Dès lors, elle se sentit libre de donner son cœur à qui bon lui semblerait. Rien de tel chez son père, qui déclara que c'était là une histoire inventée de toutes pièces. Il connaissait les Gould depuis son enfance, et s'il existait un proverbe exprimant avec bonheur les vues matrimoniales de cette famille, c'était « qui aime peut aimer longtemps ». Humphrey était un homme d'honneur, incapable de se montrer si léger à l'égard de ses promesses. « Attends donc avec impatience, » dit-il, « tout s'arrangera avec le temps. » Son père était donc en correspondance avec M. Gould, conclut Phyllis de ses paroles, et son cœur se serra. Car, au mépris de ses intentions premières, cela avait été pour elle un soulagement d'apprendre que ses fiançailles avaient fait fiasco. Mais elle découvrit bientôt qu'en fait de nouvelles d'Humphrey Gould, son père n'était pas plus avancé qu'elle. De son côté, il se refusait à prendre la plume pour aborder carrément le sujet avec son fiancé, de peur que la démarche soit interprétée comme une attaque à l'honneur de ce garçon. Tu cherches une excuse pour encourager l'un ou l'autre de ces étrangers à te charmer avec ces assiduités gratuites, s'exclama son père, d'humeur fort méchante avec elle depuis peu. J'en vois plus que je n'en dis. ne t'avise jamais de passer un pied hors de l'enclos du jardin sans ma permission. Si tu as envie de voir ce camp, je t'y emmènerai moi-même un dimanche après-midi. » Phyllis n'avait pas la moindre intention de lui désobéir en acte, mais elle tint pour acquis son indépendance dans le domaine des sentiments. Plus question de réfréner son béguin pour le hussard, qu'elle n'allait pourtant pas jusqu'à considérer comme son amoureux au sens très sérieux où l'on eût entendu. Dans des circonstances identiques, s'il s'était agi d'un Anglais. Le jeune soldat étranger était pour elle une sorte d'être idéal, exempt des servitudes de cohabitation du commun des mortels. Descendu, Dieu sait d'où, et qui disparaîtrait, Dieu sait où, le sujet d'un rêve enchanteur, rien de plus. Leur rencontre avait désormais pris un tour quotidien. Elles avaient lieu presque toujours au crépuscule, pendant le court instant qui séparait le coucher du soleil de la minute où le dernier coup de trompette enjoignait aux hussards de regagner sa tente. Phyllis avait-elle assoupli son attitude récemment ? Possible. Chez lui, en tout cas, rien de plus vrai. Il se montrait chaque jour plus tendre et au moment de la séparation, à l'issue de ses entrevues hâtives, elle laissait pendre sa main du haut du mur pour lui permettre de la serrer. Un soir, il l'atteint un si long moment dans la sienne qu'elle s'exclama. « Le mur est blanc. » Et en passant dans le champ, on risque de voir votre silhouette se détacher dessus. » Il s'attarda si longtemps, ce soir-là, qu'il eut toutes les peines du monde à traverser suffisamment vite le terrain qui le séparait du camp pour s'y présenter en temps voulu. La fois suivante, quand il vint attendre Phyllis à l'heure et à l'endroit habituel, elle ne parut point. Sa déception fut amère, au-delà de toute expression. Il demeura, les yeux braqués sur le sommet du mur, le regard vide, comme en état d'hypnose. Les trompettes et les tambours firent résonner l'appel du soir, mais il ne bougeait toujours pas. La cause du retard de Phyllis était purement fortuite. À son arrivée, elle se montra inquiète en raison de l'heure avancée. Pas plus qu'à lui, en effet, les sons qui annonçaient la fermeture du camp ne lui avaient échappé. Elle le supplia de partir séance tenante. « Non, » dit-il d'un air sombre, « je ne rentre pas tout de suite. À l'instant où vous arrivez, j'ai songé à votre venue tout le jour. Mais vous risquez la disgrâce en arrivant après l'heure. » « Aucune importance. » Je dois à deux personnes de n'avoir pas déjà disparu de la surface de la terre. Ma bien-aimée, ici présente, et ma mère à Sarrebruck. J'ai l'armée en horreur. Une minute de votre présence m'est plus précieuse que n'importe quelle promotion. » Il resta donc et continua à lui parler, à lui conter d'intéressants détails sur son pays natal et divers événements de son enfance, au point que la témérité dont il faisait preuve en restant laissa Phyllis à demi-mort d'angoisse. Ce fut seulement devant son insistance à lui souhaiter bonne nuit et à s'éloigner du mur qu'il finit par regagner ses quartiers. Sing a song of sad young men, glasses full of rye. All the sad young men sitting in the bars, knowing neon nights and missing all the stars. All the sad young men.
drifting through the town, drinking up the night, trying not to drown. All the sad young men singing in the cold, trying to forget. Autumn turns the leaves to gold, slowly dies the heart, sad young men are growing old, that's the cruelest part. Seek a certain smile, someone they can hold for just a little while. Tired little girl does the best she can, trying to be gay, for a sad young man. While a grimy moon watches from above, all the sad misbegotten.